Bienvenue dans ce module 10 de notre workshop de migration de IE6 vers IE8-9. Ce module sera dédié à la virtualisation ou les solutions possibles de virtualisation d'Internet Explorer. Comme vous l'avez vu dans les parties précédentes, on ne peut pas faire coexister deux versions d'Internet Explorer sur le même poste. Malgré tout, il y a des solutions techniques qui existent à base de virtualisation que mon cher ami Stan va se faire un plaisir de vous décrire.
Surtout, tu viens de nous présenter en fait les deux prochains slides. Donc, je vais les reprendre tranquillement. L'idée, effectivement, c'est que quand vous allez être sur une migration applicative, il y a des cas possibles où vous allez tomber en fait sur une application qui n'est pas compatible avec IE8 ou IE9, application dont l'éditeur a mis la clé sous la porte ou a été racheté, ou vous avez perdu le stagiaire, ou le développeur a changé de société, etc. Et vous n'avez pas les sources, vous ne pouvez pas le modifier, l'application est encore sensible, elle est utilisée pour le business de l'entreprise. Et de toute façon, vous êtes finalement un petit peu embêté des deux côtés. D'un côté, vous ne pouvez pas figer votre poste de travail, rester en Windows XP qui date, je le rappelle, de 2001 avec un IE6. Et puis de l'autre, ne pas utiliser l'application. Donc à un moment, il va falloir gérer ce qu'on appelle, nous, les exceptions, c'est-à-dire des cas dans lesquels la partie gestion des modes de rendu n'a pas pu être mise à jour en termes de compatibilité avec le respect des standards, que ce soit HTML 4.0.1, CSS 2.1, voire les standards futurs HTML 5 et CSS 3. Et puis il reste le problème effectivement de l'application en tant que telle. Ces applications, comme je l'ai dit, ne peuvent pas être mises à jour pour des raisons diverses et variées. Plus le fait qu'on a cette notion un petit peu de pelote de laine, c'est-à-dire que quand on commence à travailler sur une plateforme web pour la rendre compatible, il y a peut-être des chances qu'on tire des dépendances par rapport à d'autres applicatifs derrière l'entreprise. Et on sait que ce n'est pas toujours facile, principalement dans des grosses infrastructures. Donc, l'idée, c'est de se dire, il va y avoir un faible pourcentage pour le rendre d'application qui ne risque de ne pas passer on va dire la marge de la compatibilité. Et donc, il va falloir gérer ces applications comme des exceptions, sachant que, par définition, les exceptions ne sont pas censées s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Donc, les solutions qu'on va vous présenter vont pouvoir paraître, pour certaines, un petit peu usine à gaz, hein,
Gas Factory,
gas factory.
en anglais.
Une expression juste voulant dire que ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre pour le résultat qu'on souhaite attendre d'ailleurs. Donc, la question IE6 ou IE8 ou les deux, il y a peu de chances, en étant tout à fait pragmatique et réaliste, il y a peu de chances que tout se passe bien à 100%. Il y aura toujours une petite exception, une petite application qui se cache dans le fin fond de votre data center qui ne passera pas en fait peut-être la compatibilité applicative. Donc, rien ne sera blanc, rien n'est noir. Quelque part, on va probablement se retrouver dans cet état.
D'accord.
J'aurais pu faire un rond gris
Ouais,
ou
j'ai
un
bon.
disque gris, mais
Non, c'est
là,
bien.
je pense que c'est assez représentatif. On va pouvoir finalement, ce yin et ce yang, sont assez représentatifs finalement de votre parc tel que vous allez pouvoir l'avoir durant votre phase de migration pour gérer justement ces fameuses exceptions. Alors, premier, on va dire red flag, donc drapeau rouge, attention, malgré ce que certains vendeurs sur le marché vont vous promettre. Il n'est pas possible d'installer deux versions d'Internet Explorer, donc une version 6 par exemple, une version 8, ou une version 7 et une 9, ou une 7 et une 6, sur le même système Windows. Les raisons sont doubles. Elles sont tout d'abord techniques. Internet Explorer, historiquement, est fortement lié à Windows. Donc, pas mal de composants du système utilisent IE, et IE, inversement, utilisent des composants du système. On n'a jamais prévu à l'origine de pouvoir en fait avoir deux versions sur un même système. Donc, globalement, c'est pas possible techniquement. On essaye de sortir de ce modèle-là avec IE9, IE10, IE11, où effectivement le but est de sortir IE de l'ensemble du système Windows et de le rendre réellement comme une application, une bulle applicative qu'on pourra
Indépendant du
mettre en
noyau.
parallèle les uns par rapport aux autres. Mais bon, techniquement aujourd'hui, ce n'est pas possible. Deuxième, alors, certains vendeurs vont vous vendre des solutions de virtualisation applicative, etc. Là encore, ça reste de la bricole, c'est-à-dire que si vous partez sur ce type de solution, non seulement, peut-être que pour le rendu, ça va peut-être bien se passer, mais le rendu, c'est pas vraiment un problème, en fait, de tuner un petit peu IE. Pour tout ce qui est application, ActiveX, etc., là encore, je veux dire, ça n'a pas été prévu pour à l'origine. Vous allez fortement risquer d'avoir des problèmes. Dans tous les cas, ce vendeur de virtualisation, quel qu'il soit, n'ira pas, en fait, vous supporter. Et Microsoft ne supportera pas non plus si vous avez un problème. Alors que je le rappelle, hein, IE6 est supporté jusqu'en 2014, c'est-à-dire la fin du support de Windows XP.
Donc en gros, si je vais sur ce genre de solution virtualisation applicative, je me débrouille tout seul si je vais dans cette autorisation.
Bah,
pas
si
d'aide
un,
de
si,
Microsoft
voilà,
et pas
si,
d'aide
si.
du vendeur de solution en
Bah,
question.
le vendeur de solution, il aura vendu sa solution pour faire de la virtualisation. Après, il ne va pas s'engager par rapport
Au
à la
fonctionnement
compatibilité, à
de
compatibilité
l'applicative.
d'une application dans cet environnement-là. Donc, d'autant plus si l'application est une application web qui elle-même utilise une application virtualisée. Donc, effectivement, ça peut paraître comme ça sexy. Pour en avoir étudié certaines solutions de concurrents dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont fortement des gros acteurs de la virtualisation, ça reste de la grosse bricole, quoi.
Sachant que nous-mêmes, on a des solutions du même type, de
Oui, parce
virtualisation
que si.
applicative, et on a fait le choix de ne pas le commercialiser puisqu'on ne pouvait pas le faire fonctionner correctement.
Exactement. Je veux dire, si aussi c'était possible, vous pensez bien qu'on proposerait. Deuxième raison intéressante, donc hors de la partie technique, de la partie support, c'est que légalement, en fait, dans le contrat de licence d'utilisation finale de Windows, il est écrit noir sur blanc que, on a le droit d'utiliser une version d'Internet Explorer sur le système Windows. Donc ça veut dire que, bon, on ne va pas aller vous embêter probablement sur la partie légale, mais déjà, vous seriez hors du cadre du
Du
contrat de
contrat
licence et
d'utilisation.
d'utilisation Windows. Donc le tout est rappelé dans une fiche de la base de connaissances Microsoft qui est régulièrement mise à jour. Donc exécuter plusieurs versions d'Internet Explorer sur un seul système d'exploitation est non supporté. Point. Fin de l'histoire. On n'est même pas dans les aspects légaux ici. Donc la fiche, c'est là 202.05.99 pour ceux qui veulent aller voir la dernière mise à jour. Mais dans tous les cas, il y a peu de chances que ça change.
Ça va pas l'air gagné, cette histoire, alors.
Non, effectivement, du coup, on se dit, ben mince, parce que moi j'avais tel ou tel vendeur de solutions tierces. D'où virtualisation, m'avait vendu la solution miracle qui réglait tous mes problèmes. Dans les faits, s'il y avait une solution miracle, je pensais bien que ça fait longtemps qu'on l'aurait poussée, même si elle n'était pas chez nous. Parce que quelque part, cette problématique de migration d'Internet Explorer 6 vers des versions ultérieures, hein, la 8 par exemple sous Windows 7, ou la 9 dans le futur, bah, ça nous gêne également, nous, pour vous aider à migrer vers Windows 7. Donc si on avait des solutions miracles chez des fournisseurs tiers, on pensait bien qu'on n'aurait pas hésité à éventuellement les pousser, ou à faire nos solutions également, ce qui n'est pas le cas. Donc, en résumé, la virtualisation de l'application IE en tant que telle n'est pas supportée. Voilà, ça c'est clair. Donc, quelle que soit la solution, que ce soit avec ABV chez nous, que ce soit avec FINAP chez VMware, que ce soit avec les solutions du Certix ou autre, ce n'est pas supporté. Par contre, il existe d'autres alternatives, typiquement la virtualisation du poste de travail, ce qu'on appelle du VDI, ou enfin, en droit du VDI, on va voir qu'il y a d'autres solutions, ou la virtualisation de présentation. Qui porte, enfin, qu'on appelle terminal serveur depuis les années 97-96, eh ben, sont des options. Donc, effectivement, là, on va vous présenter un ensemble d'options, 4 à ma connaissance. Et donc, ce sont des. Alors, dans votre cas, ce ne sera peut-être pas intéressant. Dans le cas d'autres personnes, ça le sera. Donc, là-dedans, il faut un petit peu piocher par rapport, en fait, entre guillemets, à votre problématique applicative. Est-ce que ça concerne 2-3 utilisateurs? Est-ce que ça en concerne un grand nombre? Est-ce que je peux utiliser des serveurs de terminaux? On va voir un petit peu les différentes options disponibles. Et là encore, on le rappelle, on est en train de parler des exceptions et non pas d'une application qui concerne l'ensemble de la société.
C'est ce que je voulais dire. Si vous mettez à déployer ça à large échelle pour migrer l'ensemble de votre parc applicatif, c'est qu'il y a un problème d'analyse et qu'il faut pas utiliser ça sur l'ensemble des applications.
Oui.
C'est les applications que vous n'aurez pas réussi à migrer, les problèmes de rendu, la mise à jour des activités ou des applets n'est pas possible. Donc on doit avoir un sous-ensemble, effectivement, où la dernière arme pour permettre la migration est celle-ci.
Tout à fait. Donc dans tous les cas, de toute façon, une migration, on le sait, hein, on est conscient, ça a un coût. Donc effectivement, on peut dire, bah, je vais faire de la virtualisation pour toutes mes applications et puis je vais rien toucher. Hein. Bah, ça aura un coût finalement qui sera peut-être supérieur à simplement avoir soit acheté la nouvelle version de l'application, soit avoir mis des ressources humaines, techniques et financières, simplement à rendre compatible l'application avec la nouvelle version d'Internet Explorer.
Et inversement, pour la virtualisation, si ça me coûte plus cher de réécrire une application avec les derniers supports d'IE 8, sachant qu'on sait que potentiellement cette application va encore vivre 2-3 ans et qu'elle va être à terme migrée,
ouais.
Ça coûte peut-être moins cher de la virtualiser avec l'infrastructure qui est quand même nécessaire derrière que de la réécrire.
Alors, option numéro 1. Eh bien, on va virtualiser un poste de travail côté poste client. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on ne supporte pas d'avoir deux versions d'Internet Explorer sur un seul système d'exploitation, donc un Windows 7 avec un IE 8 et un IE 6. Par contre, ce qu'on supporte, c'est d'avoir donc un Windows et un IE. Donc, rien n'empêche de virtualiser une machine sur un poste Windows 7, donc avoir le poste physique Windows 7, la machine virtuelle qui est hébergée sur ce poste physique, et donc une machine virtuelle Windows XP avec IE 6, et de faire tourner les deux. Donc là, on est respectueux entre guillemets de tout le support, c'est-à-dire qu'on a un OS avec un IE,
ouais.
Et puis on est vraiment indépendant. Alors, peut-être que pas mal d'entre vous ont déjà testé ou entendu parler du XP Mode. L'XP Mode, en fait, est arrivé avec Windows 7 et permet d'avoir en fait une machine virtuelle qui tourne donc sur du Windows 7, machine virtuelle depuis laquelle on peut installer les applications qui sont donc compatibles avec Windows 7. Donc cette machine virtuelle de Windows XP, en XP SP3 est correctif, et puis ben, donc il y a un IE6 qui est installé dessus. Donc ça c'est une option quand on est dans des, on va dire, des petites structures d'avoir effectivement comme ça entre guillemets les deux systèmes
Des
d'exploitation
PME qui peuvent se permettre de gérer
de la grosse
de
PME
manière
par exemple
unitaire
oui
chacune des machines, quoi.
exactement sachant qu'effectivement il faut une machine un peu plus puissante en dessous donc là je vous dis Windows 7 ça pourrait être également Windows XP avec un virtuel PC ou un VMware ou autre à la limite on s'en moque un petit peu l'idée quand même c'est que le PC qui va être le PC physique va devoir avoir un peu plus de mémoire simplement pour supporter la machine virtuelle bon bien que si c'est juste pour avoir Internet Explorer. Une machine virtuelle avec 256 ou 512 MB de mémoire, ça va largement suffire pour du Windows XP. Maintenant, on est bien d'accord que dès que l'environnement va un petit peu grossir, bah, va se poser le problème en fait de l'administration. Donc on va pas s'amuser à gérer chaque machine virtuelle indépendamment, etc. Donc l'idée, c'est finalement de centraliser cette administration de ces postes virtuels depuis donc bah, un point central hein, par définition. Donc là, la solution ne s'appelle plus le Virtual XP Mode ou Virtual PC ou une autre solution. Là, ça s'appelle chez nous Microsoft Enterprise Desktop Virtualisation, nom de code MedV, c'est plus rapide à dire.
C'est classe en plus.
Et c'est plus classe. Et l'idée, en fait, est pour l'administrateur d'avoir une console centralisée depuis laquelle il va définir, en fait, quelles sont les applications ou les sites web qui doivent être lancés dans l'environnement virtualisé, c'est-à-dire le Windows XP IE6. Versus bah, le IE8 qui est installé sur la machine physique.
Ça veut dire que je me mets en tant qu'utilisateur lambda, je vais sur l'intranet, l'application A, qui se trouve être compatible uniquement avec IE6. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lancer la machine virtuelle et taper de
Alors,
l'URL
regardez, je
ou...
vais vous montrer, je dois avoir deux petites captures d'écran. Côté administrateur, eh bien, l'administrateur va définir déjà quels sont les logiciels en fait, qui sont virtualisables et utilisables en fait, dans la machine virtuelle. Donc ici, ben, j'ai défini Internet Explorer 6 avec son chemin dans Windows en fait. Et puis deuxième chose que va faire l'administrateur va définir dans l'onglet Web en fait la liste des URL qui doivent être consommées ou accédées avec IE6 et non pas l'IE8 ou l'IE9 qui sont sur le
Donc c'est
poste.
transparent pour moi dès que je vais sur ce type de sous-domaine.
Donc ici, tu es en tant qu'administrateur, tu vas définir par exemple que medv Demo.com doit être lancé avec le navigateur IE6, d'accord? Et pour l'utilisateur, ben, ça va être complètement transparent. Dès qu'il va taper dans son IE8 www.medv-demo ou www.monapplicationpascompatible.monintranet, eh bien automatiquement, en fait, une fenêtre IE6 va démarrer et automatiquement, ben, l'application sera exécutée
Donc là, la
dans la
machine
fenêtre.
virtuelle est cachée comme dans le mode XP mode,
Exactement.
sauf qu'en plus, Medv propose des solutions d'administration telles que celle-ci. Ça, c'est pas possible en mode XP mode tout seul, c'est ça?
Voilà, exactement cette centralisation. Donc là, effectivement, pour l'application qui n'est que compatible IE6, le fait d'avoir tapé l'URL même dans IE8, automatiquement démarrera un IE6 en tâche de fond, enfin dans la machine virtuelle, et ne présentera l'interface que de l'application IE6.
L'utilisateur verra pas deux machines virtuelles, il
Non,
sera
il ne
pas
saura pas,
perturbé.
on ne va pas commencer à le troubler avec une deuxième machine, déjà qu'avec une seule machine, ils ont des problèmes, certains. Enfin, on en connaît. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de remonter. Ici, on aurait pu faire apparaître également un liseré rouge autour de l'application pour montrer qu'elle est virtualisée. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire de montrer ça à l'utilisateur. À la limite,
S'en fiche un peu que ce soit
il
virtualisé.
s'en moque même complètement, on peut le dire. Voilà. Option numéro 2, donc on va virtualiser là encore un poste de travail, non plus cette fois-ci du côté du poste physique, de l'utilisateur, parce qu'effectivement là, bah, ça veut dire déployer des machines, les gérer, etc. Mais plutôt faire ça côté serveur, dans ce qu'on appelle une infrastructure de type VDI ou VDI ou Virtual Desktop Infrastructure. Donc l'idée en fait c'est d'avoir non pas la machine virtuelle qui est exécutée bah, sur tous les postes, mais d'avoir les machines virtuelles, les postes Windows XP IE6, directement exécutés dans le data center. Donc en
Ok,
fait ils
on
vont être
déporte la
exécutés sur une couche
puissance
de
de quelques...
virtualisation.
Ok, sur
Voilà.
le serveur, ok.
Donc ça va être une couche de virtualisation, donc typiquement Windows Server 2008 R2 avec Hyper-V. Et puis, ben, on va avoir donc un ensemble de machines virtuelles qui vont être démarrées côté serveur. Et quand l'utilisateur voudra accéder à une application avec IE6, donc on lui fera un petit raccourci. L'administrateur va lui préparer tout ça en termes de raccourci. En fait, l'utilisateur va se connecter en RDP, donc c'est le protocole Tamiya Server, et va accéder en fait à l'application distante qui est donc IE6.
Donc là, c'est un pool de machines virtuelles, ce n'est pas un... je me connecte sur le serveur en question directement, comme moi
Non,
je connais en tant qu'utilisateur
non,
lambda.
ça, ce sera une des options supplémentaires qu'on va avoir. Donc là, effectivement, on va avoir des machines virtuelles en pool ou affectées à des personnes qui vont être sur le serveur 2008R2, enfin sur la ferme d'hyperviseur. Et puis l'utilisateur a un raccourci sur lequel il va cliquer et ça va lui ouvrir la fenêtre de l'application IE6. La seule différence par rapport au scénario d'avant, c'est que le scénario d'avant, tout était exécuté localement.
Localement, ouais.
Alors
Là,
que là, en
c'est
fait,
distant.
la machine virtuelle et son IE6 sont exécutés dans le data center. On a un déport d'affichage qui est fait côté poste client. Alors, pour l'utilisateur, il ne saura pas trop la différence, pour peu que le réseau soit correct. Donc là, on a un exemple ici, tu vois, on a un raccourci qui est sur le bureau. Donc le raccourci, en gros, il dit bah, accéder à IE6 qui est sur mon Windows XP. Là, je changerai le nom, hein, là, on l'a fait plus simple. À partir de là, bah, il va y avoir une connexion qui va se faire. Et automatiquement, en fait, alors on va devoir probablement s'authentifier. Et ensuite, eh ben, on a l'application en tant que telle ici qui est déportée, qui est IE6, tu vois. Donc là, il n'y a pas de bordure ni rien. On peut penser que l'application est locale. Non, en fait, elle est
Donc ça
exécutée.
ressemble finalement pour l'utilisateur final, ça ressemble à ce qu'on a vu juste avant, sauf que là on a déporté le calcul sur un serveur.
Exactement. Dans tous les cas, le but, c'est que ça ressemble toujours, quels que soient nos scénarios on va dire, de nos options de contournement, du problème ou de la gestion des exceptions, c'est toujours de faire en sorte que pour l'utilisateur, ce soit quasiment transparent, quoi. C'est un peu le but. Voilà. Option numéro 3, eh bien tu venais juste en fait d'introduire cette notion, c'était qu'on peut également virtualiser un IE8, mais directement en utilisant les services de Terminal Server, qui ont changé de nom en fait avec 2008R2, qui s'appelle désormais les RDS, les Remote Desktop Services, ou les services de bureau à distance. Eh bien là, en fait, on a un Windows Server 2008R2 avec nativement IE8 comme navigateur, hein, ce qui est donc, je rappelle, hein, Windows 2008R2, c'est le pendant serveur de Windows 7, donc le navigateur par défaut, et c'est IE8. Donc rien n'empêche, en fait, depuis un serveur de terminaux de type 2008R2, de publier l'application Internet Explorer 8 du serveur directement pour que les utilisateurs puissent y accéder. Donc là, on pourrait garder à la limite un poste ici en IE6. Garder le poste XP pour l'utilisateur qui est pour l'instant bloqué sur cette application-là et qui n'a pas d'autre choix. Et puis on vous dit, voilà, ce poste, dans 6 mois, je sais qu'il est remplacé, mais j'ai encore besoin de l'application, je vais commencer à en faire migrer d'autres. Donc là, on est en train de gérer, je le rappelle, hein, les exceptions.
Puis c'est un phénomène de transition. En fait, c'est-à-dire que si typiquement ils ont besoin d'accéder à SharePoint 2010, on l'a vu, des gens ont besoin de plutôt déployer un navigateur type au moins IE7 ou IE8, ils pourront commencer à utiliser SharePoint 2010 de cette manière-là,
Exactement.
tout en ayant leurs anciennes applications le temps qu'elles soient vers
Exactement.
migrer.
Le temps de finir leur projet de migration vers un OS plus récent que Windows XP. Donc là, c'est un moyen. On a des serveurs, un ou plusieurs, en fonction du nombre d'utilisateurs, qui donc vont en fait proposer le service Internet Explorer. Et le tout sera fait depuis et contrôlé depuis en fait le serveur. Donc là encore, en fait, il y aura simplement un raccourci vers l'application qui est exécutée côté serveur. Et ensuite, on a un déport d'affichage. Dernière option, eh bien, c'est de virtualiser le poste de travail côté data center, là encore en faisant du VDI. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a montré tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un poste qui était en Windows 7 IE8 et on avait virtualisé en fait un poste Windows XP IE6 dans le data center. Là, c'est le scénario inverse. On peut être toujours dans le cas effectivement on est dans le cadre d'une migration, ces postes ne vont pas encore être migrés, mais j'ai besoin des nouveaux services. Eh bien, je fais des postes virtuels dans mon data center qui sont donc en Windows 7 IE8, voire 9, hein, pourquoi pas, éventuellement. Et puis, eh bien, le poste client va se connecter, là encore, à une application distante qui sera donc sur ces postes. Voilà. Et là, on n'a pas touché le poste client qui reste en fait en Windows XP et IE6,
Le temps que
bien
le
qu'on
projet
encourage
soit
quand même nous
terminé.
fortement à faire cette fameuse migration. Mais là encore, ces 4 options permettent simplement de passer cette marche qui est peut-être un peu difficile quand on a des applications qui posent vraiment problème et dont on n'a pas vraiment de solution. Si on devait résumer un petit peu tout ça en 2 tableaux, globalement, on a des options de virtualisation supportées côté client, des options de virtualisation supportées côté serveur. Après, ça va dépendre un petit peu de votre cas, de votre infrastructure. Du VDI nécessite d'avoir des serveurs de virtualisation, d'avoir des compétences dessus. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Inversement, c'est la même chose également pour Medvay, hein. Et donc, dans tous les cas, faudra faire un choix à un moment de dire qu'est-ce qu'on va prendre comme solution. Et là, vous avez la matrice un petit peu de toutes les combinaisons. Voilà.
Vous avez déjà une belle panoplie de solutions techniques pour résoudre ces exceptions, en fait.
Voilà. Sinon, vous pouvez également télécharger sur le site de Microsoft ou passer via notre blog, chercher un document qui s'appelle Solution for Virtualizing Internet Explorer. Donc, en gros, qui est un document un peu plus verbeux, mais qui correspond basiquement à ce qu'on vient de vous raconter
Qui
dans
parle
les.
anglais.
Et qui parle anglais, voilà.
Bah écoute, merci Stan, je pense que c'est relativement clair, moi j'ai compris. Ça conclut donc ce module 10 et je vous encourage à venir nous rejoindre sur le module 11. On va se mettre un peu en perspective par rapport aux autres navigateurs que sont Firefox, Chrome et les autres dans le contexte de l'entreprise. À tout de suite.
Merci.